mon identité en Christ, le cours 7. Il y a trois points principaux. Le premier, je suis libre de toute accusation. Deuxième point, je suis libre du pouvoir de l'accusateur. Et je suis assuré que toutes choses concourent à mon bien. Et entre parenthèses, on va voir à la fin, je ne peux pas être séparé de son amour, de l'amour de Dieu. Et ça, c'est basé dans Romains 8, que comme vous savez, c'est très clair dans la sécurité que nous avons dans le Seigneur pour être sauvés, dans le salut qu'il nous a donné. Alors, nous allons dans l'ordre. Le premier, je suis libre de toute accusation. Quand on parle d'accusation, qu'est-ce qui nous vient en tête? Qu'est-ce qui nous vient en tête? Accusation. Oui? Ça les dit quelque chose, hein? Parce qu'on est en train de penser personnellement, non? C'est normal. Parce que on est dans le péché, c'est comme si on est accusé. Et même, pas seulement dans le péché, mais on est accusé dans un sens général, personnel. Mais ça me fait penser aussi à la cour. Un juge, un accusé, puis un défenseur. Hein? Et il y a un accusateur. Et c'est ça. C'est l'idée générale quand je pense que je suis libre de toute accusation. Imaginez-vous quelqu'un qui est mis sur un banc comme un accusé, ou vous, pensez à vous. Et vous êtes dans la cour, et vous êtes accusé, puis il y a le juge qui est là. Qui prendrait la place du juge? Dieu le Père, hein? Dieu le Père, c'est lui le juge. Il y a un accusateur, c'était qui? Ce serait qui? C'est Satan qui est l'accusateur, le diable. Et il y a un accusé, ce serait qui? Moi. Je suis l'accusé, je suis assis sur le banc des accusés. Et il y a un défenseur, qui serait qui? Jésus-Christ. Quel beau encadrement. Si juste Dieu le Père n'était pas là, et même Dieu le Père, dans sa justice, qu'est-ce qu'il devrait faire avec moi? Il devrait me condamner. Il devrait me condamner parce que même si moi je vois Dieu, juste Dieu, si je me présente moi-même à ma défense devant Dieu le Père, est-ce que je sortirai libre? Est-ce que je sortirai vraiment sans aucun problème devant Dieu? Non. Dieu serait obligé de me condamner. Et me dire, tu viens dans ta seule défense. C'est quoi le meilleur argument que tu as pour que je puisse te déclarer non coupable? Si on est tous coupables, dit la Bible devant Dieu, on est tous et toutes coupables à cause de nos péchés et à cause de nos fautes. Alors moi, je n'aurais rien à faire et Dieu serait juste en me condamnant à la mort éternelle. Mais gloire à Dieu. Et en plus, il y a un accusateur qui est là. Vous vous souvenez du livre de Job? Hein? Les fils de Dieu sont venus devant Dieu et entre eux, Satan est venu aussi. Il dit, as-tu considéré ton... Dieu dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il est intègre dans toutes les choses qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il dit, Satan? Ah oui, c'est vrai, Seigneur, il est bon, il t'aime. Oui, mais... Non, oui, mais parce que toi, tu le...
Oui, mais, il y a toujours
le oui, mais. Oui, toujours le oui, mais. Oh. Alors, il dit, oui, parce que tu l'as béni, regarde, il est riche, il a des enfants, sa femme. Ben oui, c'est facile. C'est ça l'idée de Satan, hein. C'est facile qu'un homme te suit quand tu l'as béni tellement comme ça. Mais dans la subtilité de Satan, il va te montrer le mal comme si c'est bon. Alors pour te faire tomber. Et une fois qu'il t'est tombé, il vient devant le Seigneur et dit, as-tu vu ta fille? Et elle dit qu'elle t'aime, mais elle est tombée dans le péché. Ça, c'est une accusation. C'est ça l'œuvre de Satan. L'œuvre de Satan, c'est de faire tout le bon que Dieu fait pour nous. Dieu nous a préparé un chemin pour que nous puissions aller dans le bien, en pratiquant le bien. Nous, les chrétiens, on est sauvés pour des bonnes œuvres. Pas pour les œuvres, mais pour faire de bonnes œuvres. Dieu a préparé tout ça pour nous. Alors, quand on fait de bonnes choses, on est seulement en train d'obéir Dieu. Parce que c'est ça que Dieu veut de chaque enfant de Dieu. Alors, quand Satan arrive à nous convaincre à faire le mal, alors qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de défaire la bonne œuvre que Dieu a faite pour nous. Alors, c'est ça son affaire. En vérité, la lutte de Satan n'est pas directement contre nous, dans le sens qu'il veut prendre la place de Dieu. Alors, il veut montrer à Dieu comme si, tu vois, les choses que tu fais sont pas vraiment bonnes. Parce que tu as donné tous les outils pour que ceux qui ont accepté Jésus-Christ fassent le bien, ils ne le font pas. Alors, c'est comme si tout est trompé. C'est ça que veut dire à Dieu. Vous comprenez? Alors, lui, il vient, il se présente devant Dieu en accusant Job. Hein? Et puis, Jésus lui dit, ça c'est, voyez-vous comment ça, le fait que nous soyons dans l'obéissance et dans le bon chemin que Dieu nous a mis devant nous pour que nous puissions marcher, comment ça glorifie le Seigneur? Le Seigneur se sent comme fier de nous. Hein? Moi, je peux imaginer dans ma tête la fierté de Dieu quand dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il est intègre dans toutes les choses qu'il fait? Dieu est fier de son serviteur. Et comment, quelle joie que nous puissions éprouver quand il dit, as-tu vu ma fille, c'est ton nom, ma soeur, Josette. As-tu considéré ma fille Josette? qu'elle marche dans le chemin de l'évangile. Peut-être que Dieu lui dit ça à Satan quand il vient nous accuser devant lui. Je ne sais pas, à chacun de nous. Mais quelle tristesse pour Dieu quand nous succombons à la tentation, quand nous ne sommes pas capables de résister à la tentation et on tombe dans le péché. Et ça se passe malheureusement plusieurs fois dans la vie de nous, malgré nous. Parce que nous, les chrétiens, un vrai chrétien, je crois que pêche, parce que la nature pécheresse est encore en nous, n'a pas été éradiquée complètement, mais on va le faire, mais on le fait, et on sent la culpabilité après. Parce que le Saint-Esprit vient nous exhorter, le Saint-Esprit vient nous parler et dire, tu as fait le mal, tu sais que tu ne peux pas faire ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois plus faire ces pratiques-là. Et là, on revient à la repentance, on revient à la confession, et grâce à Dieu pour ça. Mais alors, voyez-vous, la scène là, devant Dieu, Dieu le juge, Satan comme l'accusateur, moi comme l'accusé, mais Jésus-Christ comme le défenseur. C'est son ministère présent. Et si le Seigneur Jésus n'était pas là, ça serait triste. Ça serait néfaste pour nous. Mais lui, il est là. Il est là. Et regardez, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est pour ça que soyez sûrs que votre salut est éternel. Qu'on ne peut pas perdre, comme certains groupes de chrétiens croient, qu'on perd le salut. Et ce n'est pas une raison pour vivre d'une façon libertine. Non. Au contraire, on doit avancer dans la sainteté parce que nous devons, comme dit Pierre, nous devons nous occuper de notre salut avec crainte, avec tremblement, parce que c'est un salut qui coûte la vie du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a un prix incalculable là-dedans. Alors, voyez-vous, c'est le contraire. Regardez, comme je disais, je suis libre et notre salut est éternel. On ne peut pas perdre le salut. Parce que si comme certains groupes croient que quand je pêche et si moi je ne me réconcilie pas avec Dieu, je perds mon salut, je suis en train d'attribuer plus de pouvoir au péché qu'au sang de Jésus-Christ. Ça aussi. Le ciel serait une place d'éventard. Comment est-ce que tu es ça? Oh, j'ai fait telle chose, hein? C'est pour ça que je suis au ciel. Oui, plein de choses. Cette assurance que nous avons du salut est encore plus sûre quand nous voyons que Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour nous, il est ressuscité pour nous et il est en train d'intercéder constamment pour nous. Alors, quoi? Comme dit Romain, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Aucune chose créée. On est sûr, on est assuré de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ envers nous et le salut qu'il nous a donné. C'est vraiment sûr. Je suis libre de toute accusation. Et qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, pas seulement ça. Il y a une question là, je vais poser la question en premier. Qui nous justifie, Dieu ou Christ? C'est qui nous justifie, Dieu ou Christ? Qu'est-ce que vous en pensez? Voyez-vous, la Trinité s'est mise dans une réunion avant de la fondation du monde. Puis il a dit, qui d'entre nous ira pour sauver l'humanité qui est tombée dans le péché? Ça, c'est une image que je vous donne. Puis le Père, le Saint-Esprit, et Dieu le Fils étaient là. Puis Dieu le Fils dit, moi, je vais y aller. Je vais donner ma vie. Je prendrai la chair comme un être humain pour sauver l'humanité, ceux qui croiront en moi. Puis le Saint-Esprit dit, OK, moi, je vais convaincre de péché l'humanité, qu'ils soient sûrs que avec le péché qu'ils ont dans leur vie, qu'ils pratiquent à chaque jour, ils ne peuvent pas entrer puis être avec Dieu dans l'éternité. Alors, et Dieu le Père a dit, OK, moi, je vais justifier ceux qui accepteront Jésus-Christ, qui accepteront l'œuvre du Saint-Esprit, qui accepteront par la foi le sacrifice de Jésus-Christ. Et moi, je serai obligé, pour cette œuvre-là, de pardonner ceux qui croiront et qui, dans lesquels le Saint-Esprit viendra pour faire son œuvre. Alors, ça, c'est une image que je vous donne de l'accord, l'unité de Dieu envers l'humanité.
Jésus a dit, moi, je vais aller payer.
Oui, c'est ça. Alors, voyez-vous, le prix, comme je vous disais au début, Dieu est obligé de nous condamner. La race humaine est condamnée à cause de leur faute. Et Dieu, dans sa justice, ne peut que nous condamner. Mais c'est là qu'intervient Jésus-Christ, dans notre faveur, pour ceux qui acceptent leur sacrifice. Alors, sans l'œuvre du Saint-Esprit, on ne peut pas être sauvé. Sans la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, je ne peux pas être sauvé. Et sans l'œuvre du Saint-Esprit, le sacrifice de Christ, je ne peux pas être justifié par Dieu. Voyez-vous comment il y a une harmonie, si je peux dire le mot, oui.
Qu'est-ce qui se passe dans l'Ancien Testament? Alors, il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas le Saint-Esprit.
Oui, dans l'Ancien Testament, le salut était encore par la foi. Parce que Dieu avait, vous vous souvenez, les sacrifices? Il y avait un seul sacrifice par le péché du peuple dans l'Ancien Testament.
Oui.
À chaque année, on devait sacrifier l'agneau de Pâques pour que nos péchés soient couverts temporairement. Alors, une fois que je venais, mais comment est-ce que ce sacrifice était accepté? Encore par la foi. Parce qu'il y avait des gens qui faisaient ça comme un rituel religieux.
Voilà,
il y a ça aussi. Et ça, ils n'étaient pas justifiés. Mais Dieu voit le cœur de l'homme. Et ceux qui venaient avec toute l'humilité, avec tout le sentiment de leur cœur, avec sincérité, demandaient la clémence, la grâce de Dieu, Dieu les acceptait. Alors ils étaient encore sauvés par la foi. C'est juste la foi dans tous les sens. Et par l'œuvre du Saint-Esprit. Sauf que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait, il faisait son œuvre dans l'homme ou la femme, dont il venait pour ouvrir. Et là, après, si on péchait, le Saint-Esprit partait. On nous quittait. C'est pour ça que l'Église, nous sommes privilégiés, parce que le Saint-Esprit ne nous laisse jamais. Il a fait sa demeure en nous, il est en nous, et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhorte, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été baptisé pour jusqu'au jour de la rédemption. Parce que quand nous soyons au ciel, le péché sera éradiqué complètement. Nous serons semblables à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit ne sera nécessairement dans nous, parce qu'on est déjà transformé à l'image du Fils de Dieu. Tu veux dire quelque chose, Anne? Sauf qu'il n'avait pas une foi directement en Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, toutes les choses de l'Ancien Testament sont juste des images de ce qui allait venir après. Oui, 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 oui. Il était enseigné comme, par exemple, vous savez, pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus-Christ l'agneau de Dieu? Parce que c'est un agneau qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament pour le pardon des péchés du peuple. OK? Le principal sacrificateur, il y a un nom? Le souverain, merci. Le souverain sacrificateur est une image de qui? De Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui intercédait une fois par année pour le peuple. C'est lui qui entrait dans le lieu très saint, une fois par année, offrir quoi? Offrir quoi?
Un agneau.
Non. Le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il entrait? Avec un hysope, il arrosait de quoi? Le propitiatoire qui était sur l'arche du pacte de Dieu. Avec les chérubins qui se touchaient les ailes. Et là, ça s'appelle le propitiatoire. Disons le couvert de l'arche du pacte. Alors, il arrosait le sang, parce que juste par le sang que Dieu nous accepte. Et c'était quoi? C'est encore une image du sang de Jésus-Christ. Alors, il le faisait ça, il l'offrait en premier pour lui, après il le faisait pour les péchés du peuple. Et là, Dieu acceptait ce sacrifice-là. Temporairement. C'est pour ça, c'est tellement intéressant d'étudier ça. Peut-être qu'un jour, on devrait utiliser comment les images de l'Ancien Testament se sont accomplies dans le Nouveau Testament. C'est très intéressant parce que vous souvenez, le souverain sacrificateur était de la lignée de qui? Le sacrificateur était de Lévi, mais le souverain sacrificateur, c'était de la lignée de?
De
Aaron. Hein? Alors, c'est pour ça que les souverains sacrificateurs mouraient. Hein? C'était des hommes. Alors, il fallait on s'est pas éloigné du thème. Hein? On est toujours en relation, mais c'est très intéressant. Je veux que vous soyez un petit peu clair dans cet aspect-là. Et là, Jésus-Christ n'est pas de la lignée d'Aaron. Mais il est souverain sacrificateur, selon qui?
Melchisédek.
Parce que Melchisédek, on ne va pas rentrer à discuter c'est qui Melchisédek et tout, parce que moi je ne comprends même pas exactement c'est qui Melchisédek. Mais Melchisédek, c'est un souverain sacrificateur, pas de la lignée d'Aaron. C'est pour ça que dans Hébreu, si vous allez lire le livre d'Hébreu, il dit que Jésus-Christ est fait souverain sacrificateur. Selon l'ordre de qui? De Melchisédek. Alors,
Melchisédek était
avant Moïse. Avant Moïse. Alors, Jésus-Christ est fait souverain sacrificateur éternellement. Il n'a pas de fin, il n'y a pas de succession. Lui, il est éternel et son sacrifice est éternel. Alors, on n'a pas besoin d'un souverain sacrificateur après Jésus-Christ. Il est le principal, le souverain sacrificateur. Alors, d'une façon, je veux dire entre guillemets, technique, c'est Dieu le Père qui nous justifie. Jésus-Christ et son sacrifice, c'est le moyen par lequel on peut se présenter devant Dieu et Dieu nous déclare justifiés. Dieu nous déclare libres de fautes. Tellement grand l'œuvre de Jésus-Christ que Dieu nous voit à travers le sacrifice de Christ, comme si on était des petits Christ. Il nous voit purs, complètement. C'est vraiment incroyable, hein? Comment le pouvoir du sang de Jésus-Christ agit dans la vie de celui qui vient et y croit dans ce sacrifice-là. Alors, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est ça que dit la parole. Alors, c'est la Trinité, comme je vous expliquais tantôt, qui le point 1, 2, personne ne peut condamner le salut. On est sûr, la Bible dit, déclare que nous sommes cachés en Jésus-Christ. Et on est sûr avec lui. Christ est mort pour eux, veut dire son sacrifice volontaire. Romains 5, 8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et ça, c'est quelque... Avez-vous déjà médité ce verset-là? Parce que parfois, on est tellement habitué, ce sont des versets tellement connus, qu'on les lit comme automatiquement. Mais si vous méditez exactement, qu'est-ce que veut dire ce verset-là? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est quoi la grandeur que nous puissions voir dans ce verset-là? Hein? On n'était pas amis de Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'on fait naturellement, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne nous aiment pas?
On ne les aime pas.
Si elle me fait quelque chose, je vais lui faire deux. Ben oui, parce qu'il faut que je prenne l'avantage. Tout le temps, on veut prendre l'avantage sur les autres. Dans tous les sens. Alors, normalement, c'est par nature, c'est ça qu'on agit. C'est comme ça qu'on agit. Si quelqu'un me dit bonjour, je lui dis bonjour à l'église. Mais est-ce qu'on cherche ceux qui nous passent parfois, on passe devant et on ne nous regarde même pas. Hein? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chercher ces frères et ces sœurs-là pour lui dire bonjour? Non. Je fais encore plus. Hein? Quand il vient comme ça, je le regarde pas. C'est ça la nature humaine. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. La réaction naturelle de chacun de nous, c'est que celui qui ne me voit pas de bons yeux, je vais lui dire, je vais lui voir avec la haine. Lui, il ne nous voit pas de bons yeux. Moi, je vais lui voir avec la haine. Je vais faire plus d'avantage. Ou en tout cas, si on est plus spirituel, je vais le voir pareil. Mais c'est ça. Le Seigneur nous a dit de ne pas faire ça. Voilà. Ça, c'est la règle d'or qu'on appelle. Mais qui aime vraiment ses ennemis? Soyons sincères. Soyons sincères. Qui on a même la misère à supporter nos patrons. Quand nous avons des patrons qui sont comme ça sur nous, qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux même pas le voir. J'ai déjà écouté des expressions comme ça. Oui. Mais soyons sincères, on est ici en famille, hein? On est ici en famille, on se raconte toutes les choses. Il ne vous est jamais arrivé que vous, pour une raison que vous ne pouvez pas comprendre, vous dites, cette personne-là, je ne la trouve pas sympathique.
Ben oui.
Ouais, voilà.
C'est de ça que je parle.
C'est justement, c'est ce que tu dis, on ne sait plus, c'est justement la nature humaine. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus pourquoi. Mais ça arrive. Alors, mais qu'est-ce que je veux vous amener à dire? C'est que, même si c'est des fois, la nature humaine est là. Mais Dieu, nous étions des ennemis, et il nous a aimés inconditionnellement. Pas juste des fois.
Il savait.
Oui.
Nous, on sait pas.
C'est ça. Il savait, il était très conscient, parce que Dieu, c'est quoi la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme et la femme?
Pour sa gloire.
Pour sa gloire. Pour avoir une relation et que l'homme puisse louer Dieu d'une façon personnelle. C'est ça, le but. Mais, qu'est-ce que l'homme a fait? On sait tous, l'homme a échoué dans son affaire avec Dieu et s'est converti en ennemi de Dieu parce qu'il a désobéi. Et le péché, Dieu haït le péché. Et ça, c'est la Bible qui le déclare, c'est pas moi. Alors, qu'est-ce que l'homme a fait? Il a dit, OK, Dieu, je ne veux plus savoir de toi, je vais aller avec mes raisonnements personnels. Moi, je décide qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas. Mais ça continue encore. Alors, on a tourné le dos à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un, qu'est-ce qu'on ferait si quelqu'un nous dit carrément comme ça? On n'est pas content. En général, on se met en colère. Et en général, on voudrait faire pire contre la personne qui nous fait ça. Dieu, au contraire. Dieu, au contraire. On lui a fait, on lui a tourné le dos à Dieu. Et il a dit, malgré que tu m'as tourné le dos, je viens pour te sauver. Je t'aime tellement que je vais donner ma vie, c'est ça? Oui.
On est le dos tourné.
Oui. Maintenant, on n'est plus le dos tourné parce que, à cause de Jésus-Christ. Parce que par la foi, regardez, tout est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a tout fait. J'ai rien à dire, oh, moi je mérite telle chose parce que c'est moi. Non. Dieu, c'est lui qui a fait le sacrifice. C'est lui qui vient me donner la foi pour que je croie. Et une fois que Dieu, par le Saint-Esprit, met la première chose que le Saint-Esprit fait, selon ce que le verset qui dit, que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et on va voir ça un petit peu plus décortiqué. Qu'est-ce que ça veut dire de justice, de voilà, merci. On va voir plus. Je veux vous expliquer ça exactement, qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ces trois aspects de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Mais il y a un rapport direct. Il y a une explication pour chaque chose. Oui, ma soeur, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, oui. Parce que maintenant, on n'est plus contre Dieu. On n'est pas. On va tomber dans le péché. Ça, c'est différent. Mais on aime Dieu à cause de l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est pas le mérite à moi encore. C'est parce que le Saint-Esprit agit en nous. C'est ça que dit la parole. Alors, toute la gloire revient toujours à Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. L'homme n'a rien à dire ou à s'enorgueillir parce que je fais telle chose pour agréer Dieu. Tout sort de l'œuvre du Saint-Esprit. Le bien que nous puissions faire, le petit, ou de temps en temps, bien qu'on fait, c'est parce que le Saint-Esprit agit en nous. C'est tout simplement ça. Alors, la gloire revient encore à qui? À Dieu. C'est lui qui fait toutes les choses pour que nous puissions être bien devant lui. Alors, Dieu prouve son amour en ce que nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire encore des ennemis de Dieu. Et malgré ça, Dieu nous a aimés et il nous a rachetés. C'est pour ça que nous devons, mes frères et sœurs, valoriser vraiment, réfléchir dans mon identité comme des chrétiens avec Dieu. Parce que c'est pas quelque chose de léger, quelque chose de comment je pourrais dire, vain. C'est quelque chose qui a la valeur, une valeur éternelle, une valeur incalculable. Alors, parce que Dieu nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Et deuxième aspect pour lequel personne ne peut nous condamner, parce que Christ est ressuscité. Il montre son pouvoir et autorité. Selon Jean 10, le peuple même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. C'est Jésus-Christ qui parle. Personne n'aime l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, ce n'est pas... Imaginez-vous que Jésus-Christ est comme nos petits-enfants, quand on est à la maison, et puis que ma mère dit, OK, ou mon père, tu vas faire telle chose, OK? Tu dois obéir. Ce n'est pas comme ça. Parfois, on pense que Dieu le Père a donné l'ordre à Jésus-Christ, vas-y, tu vas mourir pour l'humanité, parce que... Mais malgré ça, Jésus-Christ, dans son humanité, il s'est soumis complètement, parfaitement, 100% à la volonté du Père. Et pourquoi cet aspect-là? Parce que si Jésus-Christ aurait employé son pouvoir comme Dieu pour réaliser l'œuvre du salut, le salut ne serait pas parfait. Mais il a accompli la loi en tant qu'homme, en étant soumis complètement à la volonté du Père. Mais Dieu, n'oubliez pas que Dieu, Jésus-Christ n'a jamais cessé d'être Dieu. Ce n'est pas que quand il a pris la chair, il a cessé d'être Dieu. Il y a des doctrines erronées qui croient ça, que quand il a pris la chair, il a cessé d'être Dieu, il s'est converti en un homme à 100%. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ était à 100% homme, mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Dieu ne peut pas nier, se régner lui-même. C'est ça que la parole dit.
S'il était mort, il ne serait pas ressuscité. S'il était un homme, il ne serait pas ressuscité.
C'est ça, ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Parce qu'il n'est pas ressuscité. C'est très compliqué, ok? Il y a des choses. Jamais on ne pourra pas comprendre la grandeur de Dieu. C'est un mystère pour nous. Et c'est dans il y a un verset, ça ne me vient pas à la tête, je pense que c'est Proverbe 31, je ne suis pas sûr, qui dit « Les choses révélées appartiennent aux hommes et les choses cachées appartiennent à Dieu. » On doit juste les accepter par la foi. Mais on ne sait pas comment est-ce que, théologiquement parlant, on appelle ça l'union hypostatique de Jésus-Christ. C'est-à-dire cette union de chair et divinité qu'on ne peut pas expliquer. Parce que Dieu, dans son omnipotence, il a fait toutes les choses comme ça. Alors, il est mort étant 100% homme. Oui. Voilà. Parce qu'il a souffert en tant qu'homme à 100%. Il dépendait de son père à 100%. Il y a eu une séparation de Dieu avec Dieu le Père avec son Fils Jésus-Christ. Et là, à ce moment-là, selon la Bible, Dieu a chargé de tous les péchés de l'humanité à lui. Alors, imaginez-vous que Dieu rompre sa grâce par un instant avec nous, ça serait une catastrophe vraiment immense. Et c'est ça que Jésus-Christ a souffert pour nous, justement. C'est pour ça qu'il dit, la Bible, elle est juste pour les injustes. Et il a souffert le châtiment que nous devions, nous tous, souffrir, expérimenter. C'est lui qui l'a souffert. C'est ça. Il est tellement grand, l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est ça, l'œuvre de Dieu qui dit qu'il est substitutif. Il est substitut, il a pris ma place. C'est moi qui devrais être crucifié, c'est vous qui devrez être crucifié. Mais Jésus-Christ a pris notre place pour que nous soyons libres. Alors, le Père même, Jésus-Christ, dit, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Il savait déjà. Il explique aux disciples, personne ne me l'ôte. Parce que aussi encore, il y a des... Et je veux dire ça, il y a même des chrétiens qui croient que Satan y avait l'autorité pour tuer Jésus-Christ. C'est vrai que Satan a beaucoup influencé sur les hommes pour faire mourir Dieu. Mais dans cette chose-là, Satan n'est qu'en train d'accomplir le plan du salut de Dieu. Okay? Et puis là, Jésus-Christ a toute l'autorité de mettre sa vie et de la reprendre. C'est ça qu'il dit le texte. Et ça, c'est quand il dit tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, c'est justement l'unité que je vous disais tantôt. Quand je vous donnais l'image de la réunion que la Trinité a eue, et ils ont décidé quelle offre faire à chacun d'eux pour le bien de l'humanité. Et parce que sans l'œuvre d'une personne de la Trinité, on ne pourrait pas être sauvé. Si le Saint-Esprit ne venait pas nous convaincre de péché, on ne pourrait pas accepter Jésus-Christ par la foi. Voyez-vous? C'est une harmonie parfaite. Et Christ intercède pour nous. C'est son ministère présent. Montre son ministère présent, Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et c'est pour ça que le ministère de Jésus-Christ, c'est l'image du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament qu'il venait. Vous savez que la panne de la robe du souverain sacrificateur, il y avait des petites cloches. Et alors, quand il entrait dans le... Parce que c'est juste lui qui entrait dans le lieu très saint une fois par année. Alors, quand il entrait... Les sacrificateurs qui restaient dans les lieux saints, ils pouvaient écouter les petites cloches quand ils bougeaient. Si on n'écoutait plus les cloches, ça veut dire que le souverain sacrificateur était mort. La Bible ne nous raconte pas une expérience comme telle qu'un souverain sacrificateur est mort. Pourquoi? Pour quelle raison qu'il pourrait être mort dans le lieu très saint? Par Dieu. Parce qu'il a fait quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, de ce qu'il devait faire pour présenter le sacrifice devant Dieu en faveur du peuple. Vous vous souvenez qui a été fulminé, on dit, foudroyé par Dieu? Qui? Vous vous souvenez qui? Les enfants d'Aaron. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont offert feu étrange. Parce qu'ils n'ont pas agi selon ce que Dieu avait dit de comment on devait s'approcher de peut-être la mauvaise influence de mon pays d'origine, l'espagnol. Je perds le français. Mais l'hôtel, je veux dire, l'hôtel. Là-bas, j'avais perdu l'espagnol. Je parlais des mots en français. Et ici, un jour, je vais rester muet, peut-être.
Tu parles en grec.
Oui, je parlerai en grec. Bon, c'est vrai. Ben, l'hôtel, je veux dire, ils se sont approchés, ils ont offert un feu étrange. Parce qu'il y avait le feu qui devait être toujours allumé. Puis, avant que le feu s'éteint, avec le même feu, on devait allumer l'autre. Et puis, ils sont venus. Oh, on est déjà dans l'ère de la technologie. Au lieu d'utiliser la Bible, on va utiliser une tablette. Quasiment comme ça. Ils ont eu la bonne idée d'allumer le feu différemment, avec leur décision. Qu'est-ce qui s'est passé? Foudroyé directement par Dieu. Bon, c'est une chose pareille qui s'est passé avec le souverain sacrificateur.
Si,
oui. Ben non, ils ont été comme, oui, jugés par Dieu. Sauf que c'est Élie qui a été jugé. Il est tombé vers l'arrière, il s'est cassé les fils sont morts dans la guerre ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas exactement. Mais ils ont été châtiés par Dieu à cause de la vie qu'ils passaient parce qu'ils abusaient le peuple dans leur fonction de sacrificateur. Alors voyez-vous, Dieu ne pardonne jamais telle chose. Alors c'est pour ça que le souverain sacrificateur avait les petites cloches. Là, ça indiquait qu'il était vivant. Il agit, il bouge encore. Alors, mais c'est intéressant. La Bible ne nous déclare que si quelqu'un est mort, comme ça. Vous vous souvenez seulement le père de Jean-Baptiste. Il a vu un ange seulement, puis il est resté muet. C'est ça, hein? Alors, c'est le seul jugement qu'on voit dans la Bible de quelqu'un qui est entré pour ministrer le Seigneur dans le lieu saint. Et c'est quelque chose de différent. En tout cas, on va continuer. Vous avez quelque chose à ajouter ou une question? Répète-moi la question, ma soeur. Et là, encore une fois, la raison pour laquelle je dis c'est Dieu qui justifie. C'est parce que, regardez, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité selon le plan de Dieu au troisième jour après son sacrifice? Parce que Dieu, le Père, a accepté pleinement son sacrifice. Parce que Jésus-Christ a accompli la loi parfaitement en tant qu'homme. Il a comblé les demandes de Dieu et Dieu a accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Sinon, Jésus-Christ aurait besoin d'un sauveur lui-même. Tandis qu'il est le sauveur du monde, parce que son sacrifice a été effectué tellement parfait que Dieu le Père a accepté son sacrifice et lui, il est monté au troisième jour pour rester à la droite du Père. Voilà, tout est accompli. Ça veut dire les exigences de Dieu sont satisfaites. Il n'y a rien de plus que l'homme puisse faire. L'homme maintenant a le chemin ouvert devant Dieu, vers Dieu parmi son sacrifice. C'est juste par Jésus-Christ. Ce n'est pas un chemin, c'est le seul chemin, Jésus-Christ. Alors, c'est très important. Personne ne peut condamner les élus. Okay, parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Ce que j'ai déjà mentionné, il n'y a pas seulement le fait que Satan nous accuse, mais il y a aussi le fait que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Satan nous accuse devant Dieu à cause de nos péchés. Okay? Mais le Saint-Esprit nous fait ressentir le poids de ce péché-là quand on le commet. Mais il y a deux façons différentes de montrer ce péché-là. Hein? Si nous lisons le texte, il n'y a le fait que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Je me réjouis à cette heure, dit Paul, non pas de ce que vous avez été attristé, ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu. Ça veut dire le Saint-Esprit agissant en nous, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. OK? Est-ce que ça vous vient à la tête? Il y a la tristesse qui vient de Dieu, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient nous exhorter, nous convaincre quand nous avons péché. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Cette tristesse-là que nous ressentons, ça nous amène à quoi? À la repentance. À confesser notre péché à Dieu et revenir dans le bon chemin. Mais quand on a une tristesse selon le monde, qu'est-ce que ça produit en nous selon la parole? La mort. La mort. Est-ce que ça vous vient à la tête, quelqu'un, un exemple? Judas. Judas a senti la tristesse selon le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a confessé son péché devant Dieu?
Non.
Il était tellement mal à cause qu'il avait fait? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait avec les 30 pièces d'argent? Il est allé, il les a jetées. Je ne veux pas ça. Hein? Je ne veux pas ça. Il était tellement misérable dans son attitude. Judas ou Jude? Comment on appelle?
Jude.
Oui, c'est ça. Voyez-vous, j'oublie mon français, excusez-moi. Judas. OK. Il est, vous savez que 30 pièces d'argent, c'est le prix qu'on payait pour un esclave mort.
Mort,
même pas vivant.
Alors, c'est pas beaucoup.
Alors, ça veut dire comment Judas avait un très mauvais sentiment envers le Seigneur. Si vous voyez dans l'Ancien Testament, je ne me souviens pas exactement dans quel livre, mais il dit le précieux prix pour lequel vous m'avez estimé, quelque chose comme ça. Jérémie, je crois, mais je ne suis pas sûr. Et c'est une prophétie de ce que Judas allait faire avec Jésus-Christ. Cette prophétie s'est accomplie en Judas, parce qu'il est venu et il a accordé 30 pièces d'argent pour Jésus-Christ. C'est comme si maintenant vous allez vendre quoi, qu'est-ce que je pourrais dire? Quand vous faites une vente de garage et vous avez payé pour un mélangeur, vous avez payé 50$, mais comme il est tellement mal en point, vous dites, donne-moi 2$ pour ça. C'est comme, ça ne sert à plus rien. Là. C'est ça qu'il a fait Judas. C'est le prix qu'il a accepté. Ça veut dire que lui, il avait... Ça nous montre exactement comment est-ce qu'il considérait Jésus-Christ. Il ne l'a jamais... Vous voyez que dans le Nouveau Testament, Judas, c'est le seul qui n'a jamais appelé Jésus-Christ Seigneur, Maître. C'est le seul. Parce qu'il ne le considérait pas comme ça. Pour lui, il n'était pas le Maître. Il n'était pas le Seigneur. Alors, il a vendu Jésus-Christ pour le prix d'un esclave mort. Si vous faites des recherches dans l'Ancien Testament, si quelqu'un tuait l'esclave d'un homme par accident, mettons, vous allez dans votre Nissan Sentra, dans votre Honda Accord, puis boum, il se croise devant vous, puis vous le tuez, qu'est-ce que vous devez payer selon la loi de Moïse? 30 piastres d'argent. Ce n'était pas grand-chose. C'est un esclave. Et les esclaves étaient tellement méprisés. On dit que dans le temps de l'Empire romain, dans le temps de Jésus-Christ et un peu avant, parfois, les maîtres romains qui avaient plein d'esclaves, juste pour montrer ça sonne cruel, mais c'est vrai. C'est l'histoire qui nous raconte ça. Qu'un maître avait des invités chez lui, parfois juste pour montrer son pouvoir sur les esclaves, il pouvait dire à un soldat, tue ces esclaves-là devant nous tous, ces invités, juste pour montrer qu'il avait le pouvoir. Et le soldat venait et tuait, parce qu'un esclave, c'était pire qu'un animal. Alors, c'est comme ça qu'a été considéré Jésus-Christ pour Judas. Je vous raconte ça juste pour que vous ayez une meilleure image de comment est-ce que Jésus-Christ a été méprisé, vraiment. Hein? Et pas à cause de nous. Parce qu'il n'avait pas à souffrir, à passer à travers cet aspect-là. Et là, quand il dit que on est attristé selon la tristesse de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit vient nous exhorter et nous dire, t'as péché, tu dois confesser ce péché-là, parce que t'as péché, tu ne peux pas continuer. Parfois, on garde ces petits péchés, hein. Comme dit M. Frey, les petits péchés mignons que nous avons, hein, qu'on ne se rend même pas compte, parce qu'on est tellement habitué aux péchés mignons qu'on est bien avec. Hein. On se sent même délaissé quand on ne les voit pas. On se sent délaissé parce qu'on n'a pas fait le petit péché mignon. On est tellement... Oui, mais c'est vrai, il faut lutter contre ces petits péchés mignons aussi. Parce que ce sont des péchés. Et le péché fait une... dit la parole, division, il met une barrière entre Dieu et nous. Et le péché nous empêche d'avoir une communion parfaite avec Dieu. OK? Je suis assuré que toutes choses concourent à mon bien. Ah, mais j'allais expliquer avant, excusez-moi. J'avais expliqué le fait que le Saint-Esprit nous convainc de quoi? De? Encore un? Péché, justice et jugement. OK. Il nous convainc de péché, c'est clair, non? Est-ce que vous ressentez quand même parfois des remords à cause que vous avez fait quelque chose de mal? Parfois, on l'a pas fait, on n'a pas allé à l'action, mais on l'a désiré dans notre cœur. Oui, on l'a pensé, puis on l'a caressé même, le péché. Et alors, c'est ça qu'en évangélisation explosive, on appelle le péché d'intention, intentionnel, et le péché d'omission, OK? Le Saint-Esprit va nous exhorter aussi quand on a pu faire le bien et on ne l'a pas fait. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à ça? Est-ce que vous avez déjà, après avoir... vous êtes devant le besoin de quelqu'un et vous sentez que oh, je devrais l'aider, mais vous ne le faites pas? Jacques, je dis, quand il y a un frère qui vient à toi et tu lui dis, il te raconte qu'il n'a pas d'argent pour... la nourriture du jour, là. Il n'a pas de lait pour les enfants, il n'a pas de pain. Et puis vous avez l'argent dans vos poches et vous, très spirituellement, vous dites, OK, on va prier pour toi, mon frère, que le Seigneur puisse pourvoir tes besoins. Et tu pries pour lui, et au lieu de lui donner un 20 piastres, tu pries pour lui, parce que tu es spirituel. C'est ça que dit Paul. Il faut que nous soyons actifs. La foi, mes frères, est active. La foi, si on la fait pas agir, dit Jacques, c'est mort. Hein? C'est une foi morte. Alors, il faut agir. Alors, ben, le péché, c'est clair. Quand il dit de justice, quelle idée vous donne? Quand il dit que le Saint-Esprit nous convainc aussi de justice, cet aspect-là, c'est lié directement à Jésus-Christ. OK? Parce que, comme je disais, Jésus-Christ, son sacrifice a été parfait. Et la justice de qui parle ce verset-là, c'est le fait que le sacrifice de Christ a été accepté à 100% et il est allé vers le Père comme un acte juste, comme ce qu'il mérite vraiment, Jésus-Christ en tant que juste devant Dieu. Et quand il dit de jugement, c'est par rapport direct avec Satan. Parce que Jésus-Christ a Satan a été condamné depuis le début du monde, sauf que sa condamnation n'a été comme, disons, technique jusqu'au moment du sacrifice et résurrection de Jésus-Christ. Parce que même Satan croyait, quand Jésus-Christ a été crucifié, Satan croyait qu'il avait vaincu. Voilà le Fils de Dieu. Hein? Il est mort. Il est banni complètement. C'est ça que Satan pensait. Parfois, on donne trop de pouvoir à Satan. On croit qu'il sait tout comme Dieu. Mais non, Satan, il a un pouvoir vraiment grand qu'il peut en déduire des choses. Il connaît même la parole de Dieu, puis il va la tordre pour nous confondre. Mais Satan ne sait pas toutes les choses. Alors, quand il a vu Jésus-Christ crucifié, la pensée de Satan, c'est finalement, j'ai vaincu. Je prendrai la place de Jésus-Christ. C'est moi le puissant. C'est moi qui ai le pouvoir. C'est ça qu'il croyait. Malheur pour lui, quand Jésus-Christ est ressuscité au troisième jour. Et c'est là que le jugement de Satan s'est accompli à 100%. Et c'est pour ça qu'il dit des jugements. Le Satan est condamné d'une façon technique, réelle, et il n'a plus. Il sait qu'il est fini. Sauf qu'il va continuer à faire du mal. Il va continuer à nous faire tomber parce que c'est son offre. C'est ça qu'il veut faire, de faire toutes les bonnes choses que Dieu fait. Il essaye de le faire. Mais alors, la tristesse selon Dieu produit une repentance, un salut, puis la tristesse du monde nous conduit vers la mort. C'est ça l'exemple, encore une fois, de Judas. Il a senti la tristesse, mais il ne s'est pas repenti. Est-ce que vous croyez que si Judas s'était repenti, il avait demandé pardon à Dieu, Dieu l'aurait pardonné? Oui, parce que c'est ça que Dieu dit. Que celui qui se tourne vers Dieu, Dieu ne le refuse jamais. Alors, il n'a pas fait. Il a senti la tristesse du monde. Je suis assuré que toutes choses concourent à mon bien. Romains 8, 28, 29. Quel est le dessein de Dieu selon le verset 29? Car ceux qu'il a connus davantage, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et le 3.2, parce que nous sommes prédestinés par Dieu à la gloire. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, toutes choses concourent pour le mieux à ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Chacun est responsable. Je ne vous force pas à répondre. Chacun est responsable. Si vous aimez Dieu, si vous avez douté d'aimer Dieu, réfléchissez. Faites un examen introspectif en vous-même. D'ailleurs, Paul conseille de nous examiner périodiquement hein, pour être certain qu'on est dans la foi. Et ce n'est pas un péché de faire ça. Et c'est la parole qui nous exhorte à faire comment est-ce que j'ai agi pendant que j'étais à El Salvador. J'ai commis le péché d'oublier le français. Et maintenant, je reviens. Merci parce que vous m'aidez. Mais sérieusement, comment est-ce que j'ai vécu le mois passé? Est-ce que vous faites ça de temps en temps? C'est quoi mon attitude envers les frères à l'église? Est-ce que j'ai eu de bonnes attitudes envers mes frères? Ben c'est ça. C'est ça. Je boude contre mes frères. Non. Est-ce que j'ai été prêt à aider un frère dans le besoin? Vous savez que l'exhortation, et ça c'est sérieux pour nous, l'exhortation de la Bible dit que nous devons nous surveiller les uns les autres. Pas pour nous critiquer, justement pour nous aider. Pour voir dans quel besoin est mon frère. Parfois, à cause de notre négligence, on passe à côté des frères qui ont vraiment besoin. Parfois, pas nécessairement de l'argent, des affaires matérielles. Mais devenir lui. Parfois, vous savez qu'est-ce qu'ils font les psychologues et les psychiatres? Ils vous écoutent. Et vous sortez, waouh, quel bon psychiatre que j'ai. Mais il n'a rien fait que vous écouter. Et nous, en tant que frères, si je vois qu'il y a un frère, une soeur qui a le pas bonne mine, parfois la tristesse, le besoin, ça se montre. Hein. Même si on ne veut pas, ça se reflète. Et puis si vous soupçonnez, il n'y a rien de mal à vous approcher et dire, mon frère, ma soeur, est-ce que je peux t'aider en quelque chose? Veux-tu qu'on prie ensemble? As-tu un besoin? Et là, personnellement parlant, parfois on est ouvert. à exprimer nos besoins. Parfois, quand ma femme disait, quand elle était dans la déprime, qu'elle était déprimée dans la dépression, elle dit qu'elle sentait comme si Dieu n'était plus avec elle. Hein? Mais grâce à Dieu, il y a des sœurs qui l'appelaient et disaient, non, écoute, on va prier, on va sortir. Et même s'ils n'avaient pas envie de le faire, mais ça aide. Alors, il faut que nous soyons, mes frères et sœurs, attentifs les uns des autres. C'est le commandement de Dieu. Dieu veut que nous aidions, et ça c'est pour sa gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Petite application, glorifions Dieu, car il a tout fait pour que nous soyons en paix et libres de toute crainte. Ne soyons pas dans la crainte. Soyons sûrs de ce que Dieu a fait pour nous, du salut de Jésus-Christ qu'il nous a donné. C'est un salut éternel. Personne ne peut rien faire contre ça. Alors que Dieu nous aide à ressentir cette joie, malgré les épreuves, parce que nous passons par des épreuves. Regardez-moi, je suis comme un problème de voix que j'ai commencé là-bas encore. Les allergies se sont activées. Et ça reste encore des effets. Mais j'ai comme la voix plus masculine, dit ma femme, alors c'est bien. Il y a un aspect positif dans toutes les choses, voyez-vous. Alors il faut se réjouir et glorifier notre Dieu parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes dans la famille de Dieu et ça c'est un privilège que c'est juste nous qui avons. Nous allons prier.